Merci de suivre cette rubrique gestion, regard sur la gestion de la politique nationale. Nous nous intéressons à l'impact, en tout cas économique, du monde sur nous. La Côte d'Ivoire est un pays extraverti, au plan économique. Tout ce qui se passe en dehors de ses frontières, c'est sûr, réjaillit donc sur sa politique nationale. Et nous nous intéressons justement à cette situation on peut dire un peu morose au plan économique dans le monde et son impact sur la Côte d'Ivoire. On avait parlé de la politique mise en place par la zone UMOA, les pays de la zone UMOA. On avait parlé de la maîtrise des taux directeurs justement pour essayer d'inciter à un investissement qui permette la consommation et consommation qui permettrait de relancer aussi notre économie. C'est une des politiques utilisées par la Côte d'Ivoire et les pays de la zone UMOA. Vous avez dit dans notre précédent numéro, M. Onouzon, que vraiment la Côte d'Ivoire essaie de maîtriser justement cette inflation importée par ce qui se passe ailleurs. Bonjour et bonjour. J'espère que j'ai bien résumé.
Tout à fait.
Voilà. Alors aujourd'hui, on va revenir encore sur cet aspect pour voir comment la Côte d'Ivoire et comme les autres pays de l'UMOA pourraient vraiment résister justement à ces chocs extérieurs. Est-ce que déjà, pour parler de la Côte d'Ivoire, on peut dire que c'est un pays résilient au plan économique, les ressorts fondamentaux sont assez solides face à ces chocs extérieurs, parce que bon, pour un pays, il y a toujours des situations imprévues.
Oui, merci. Nous avons des atouts au niveau de notre pays. Nous avons des atouts naturels et nous avons aussi des atouts artificiels. Et le tout nous permet effectivement de résister aux différents chocs, j'allais dire exogènes. Mais pour y parvenir, je pense qu'il y a certaines dispositions pratiques qui conviendraient de prendre aujourd'hui en l'instar la situation économique dans le monde. Et je ne vous l'apprends pas, vous savez que la croissance mondiale, comme on l'a dit la dernière fois, devrait ralentir. Elle devrait ralentir des 6% en 2021, elle devait passer à 3,2%. En 2022, 2,7% en 2023. Et ça, ça peut réjaillir sur toutes les croissances des autres pays. Il s'agit là de la croissance mondiale. Alors,
mais justement, avant que vous continuiez, pourquoi à un certain moment, le monde, on peut dire au plan économique, ralentit parce que c'est pas un phénomène qui est né hier, quand nous regardons l'histoire économique du monde, des périodes, il y a des situations qui font que l'économie au plan mondial ralentit. Qu'est-ce qui peut expliquer cela ?
Alors, il y a deux sortes de chocs. Il y a des chocs endogènes, ça c'est purement interne, et puis des chocs exogènes. Au plan interne, il se peut qu'on ait mis sur une politique économique et financière qui ne réussit pas, qu'il faut changer absolument. Vous avez vu, par exemple, quand on a essayé de baisser les taux directeurs. C'est vrai qu'il y a eu une demande de monnaie intérieure qui a été très forte. On a développé des investissements dans le cadre de la demande globale. Et cela a permis de créer ce que vous voyez un peu partout. Mais ce n'est pas pour autant que cela n'a pas entraîné une série d'inflations, une inflation même galopante. À un moment donné, je dirais même qu'il y a dû avoir aussi un problème de réorientation de la demande intérieure de monnaie. Parce que l'objectif, dans ce cadre bien précis, quand on fait une demande de monnaie exceptionnelle, il faut permettre aux opérateurs économiques dont les activités sont liées aux exportations d'avoir beaucoup plus de crédit que les autres. Parce que ce sont eux qui vont garantir la valeur externe de la monnaie. Et quand elle n'est pas garantie, la demande intérieure de monnaie ne peut pas vous permettre d'avoir une économie solide. Bien entendu, ça ne peut que soutenir davantage l'inflation. Voilà un peu quelques aspects qu'il faut effectivement mettre en pratique.
Et dans le au cadre niveau extérieur.
Voilà. Maintenant, au niveau extérieur, je le disais, il y a eu une pandémie, par exemple. Ce sont des chocs exogènes. C'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Une pandémie, c'est une maladie. Et on ne peut pas la prévoir. Il y a quelquefois même, il y a des effets physiques assez importants. il y a des déluges qui arrivent un peu partout.
Des catastrophes.
Des catastrophes naturelles. Et ça, c'est fait pour entraîner justement la croissance mondiale vers le bas. Parce que ce sont des imprévus. Et il y a des imprévus qu'on peut prévoir. On vous dit, bon, voilà, on va mettre telle enveloppe de côté, et va nous permettre, dans le cas de certains imprévus, de voir comment est-ce qu'il faut les gérer. Mais quand l'imprévu, quand c'est monstrueux, quand c'est colossal, mais ça dépasse tout entendement.
Oui,
là, il faut prendre d'autres dispositions. Et quand ça ne se passe pas dans un seul pays, mais ça se passe dans tous les pays, mais le déficit, il devient mondial. Et la croissance mondiale est attaquée. Donc, c'est du fait, j'allais dire, de certains aspects exogènes, de certaines difficultés exogènes qui attaquent tous les pays du monde. Et c'est cela qui entraîne des situations économiques et financières assez terribles, voilà, dans le monde entier. Et comme le monde est interplanétaire, lorsque la pandémie a d'abord attaqué la Chine, mais elle est allée dans tous les pays du monde. Et là, on n'a pas besoin de dire que est-ce que tel ou tel pays est préparé par rapport à cette pandémie. On ne peut pas être préparé par rapport à une pandémie en termes économiques et financiers. Mais lorsqu'elle s'éclate, on met sur pied certaines dispositions. Et la première qui a été mise sur pied, c'était la baisse des taux directeurs.
Oui.
Voilà, pour permettre de développer l'investissement. Puisqu'il n'y avait plus d'interaction, il n'y avait plus. Les pays ne communiquaient plus. Il n'y avait plus de commerce international. Mais au moins, au plan intérieur, il y a les bourses qui existaient. Et la bourse aussi, c'est un élément de dynamisme économique et financier. Et en développant ce qu'on appelle l'investissement, mais cela a un impact positif sur la bourse. Et dès lors où la bourse va très bien, mais c'est la situation économique et financière dans le pays et dans le monde. Et c'est un élan qui est assez positif à ce niveau.
Un élan assez positif alors dans cette stratégie justement de résistance ou de relance de l'économie. La Côte d'Ivoire avec les autres pays membres de l'UEMOA a réussi quand même à maintenir son niveau d'inflation et son niveau économique. C'est vrai que quand nous regardons 2020, déjà le taux était annoncé en négatif, mais quand même on a pu approcher les 2%. Et puis, projection, relance 2021, déjà 6%, 2022, plus de 7%, 6, en tout cas proche de 7%. Et puis, 2023, on est dans la perspective de plus de 7%. Alors, un pays qui résiste comme cela, justement, est-ce que, comme les autorités l'annoncent, à ce rythme-là, l'émergence tant souhaitée pourrait être atteinte, puisqu'on avait parlé de 2020, projection 2030. Est-ce qu'on est sur la bonne lancée?
Mais ce n'est pas impossible. Je pense qu'avec les dispositions prises par nos autorités économiques et financières, je dirais même politiques, vous voyez bien la situation économique et financière de la Côte d'Ivoire. Elle ne fait que s'améliorer davantage. Et je pense que c'est le sérieux dans la gestion de nos programmes économiques et financiers. C'est le sérieux dans la programmation de nos différentes aptitudes économiques et financières. Et ça, ça permet à un pays comme la Côte d'Ivoire d'agencer, si vous voulez, des lendemains ou un lendemain meilleur. Et je pense que, néanmoins, il y a certaines dispositions à l'instar du monde qu'on peut prendre pour, si vous voulez, rendre encore plus dynamique notre économie. Et je prends par exemple la politique monétaire qui devrait logiquement s'employer à faire baisser les prix des principaux produits, les produits alimentaires et autres. Mais ça, on a déjà réussi à. On va le réussir, on est en train de le réussir à l'image de l'Union qui a cherché déjà à augmenter les taux directeurs de la Banque centrale. Et les taux d'intérêt ont augmenté, tout le monde ne va plus vers le crédit. Mais on va de plus en plus vers l'épargne. Et voilà. C'est vrai que l'investissement peut-être prendre un coup. Mais ce qu'on a déjà fait comme investissement, je pense que c'est assez dynamique pour nous permettre de résister. Il faut aussi voir, à mon sens, si on peut aligner la politique budgétaire sur la politique monétaire. Voilà.
C'est-à-dire, la politique budgétaire, c'est quoi? Et en quoi elle pourrait être arrimé à la politique monétaire dont vous parlez?
On a une politique, enfin le budget de l'État, c'est un peu ce budget qui nous permet d'agencer notre politique de développement.
Oui.
Et c'est dans le budget, on parle de nos différentes recettes et puis de nos différentes dépenses.
Mm-hmm.
Mais on nous donne la possibilité, dans le cadre de la gestion de ce budget-là, d'engendrer un déficit de tout au plus 3%. Mm-hmm. Aujourd'hui, avec ce que nous traversons comme difficulté, nous sommes allés au-delà des 3%.
Le conseiller a dans l'espace sur moi, c'est
voilà,
ça.
C'est ça.
Donc il faut faire des efforts pour ramener à la norme.
Pour ramener ça à cette norme communautaire.
Mm-hmm.
Et puis ensuite, le taux d'inflation. Aussi, ça c'est une bataille qu'il faudra mener. C'est-à-dire le taux d'inflation de la communauté, c'était 2%. Mm-hmm. Mais ça ne devrait pas dépasser le taux de déficit budgétaire qui est de 3%.
Mm-hmm.
C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut aligner la politique budgétaire sur la politique monétaire restrictive,
mm-hmm.
voilà, en respectant les paramètres de convergence.
Mm-hmm. Alors, mais sur l'inflation, généralement, pour ce que nous notons en tant que citoyens, nous remarquons que lorsque les prix des denrées augmentent, c'est rarement que ces prix reviennent à la baisse. On a connu, pour parler un peu comme les bananes braisées, donc, qui étaient par exemple avant à 50 francs, ce sont 15. Aujourd'hui, on a des bananes à 200. Ça nous étonnerait que même s'il y a des politiques monétaires ou de réduction de l'inflation, ces prix-là puissent revenir à la baisse. Est-ce que quand un niveau de prix est atteint, il y a une politique qui permet, à moins que ça soit une décision prise par les autorités, de ramener à, je veux dire, à des proportions raisonnables?
Ben oui, d'abord, la première des choses qu'il faut faire, c'est intensifier un peu le contrôle quand même. Déjà, en Côte d'Ivoire, je pense que ce travail est très bien fait,
mm-hmm.
par nos pouvoirs publics, par nos ministères. Mais si on constate qu'il y a quelques poches de résistance, je crois qu'il faut continuer. Il faut, déjà on leur tire notre chapeau, mais cela ne veut pas dire qu'ils doivent arrêter de faire ce qu'ils ont commencé et qui est très bien.
Moi, c'est dans ce domaine-là qu'on a un peu le système de plafonnement de certains prix à noter, une décision prise par l'État ivoirien pour, par exemple, les produits de grande consommation, hein, pour éviter que les populations n'aient plus les moyens d'acquérir ces biens-là, c'est cela? C'est comme ça qu'on doit comprendre cette approche-là?
Oui, tout à fait. Ce sont des politiques internes qu'il faut essayer de mettre sur pied. Mais il faut surtout faire un contrôle. Il faut faire un contrôle parce que, vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a forcément une augmentation des intrants dans le cadre de la gestion de certains produits que ces produits doivent voir leur prix augmenter d'une manière très importante.
Mm-hmm.
Avec un contrôle régulier,
mm-hmm.
et cohérent, je pense qu'on peut arriver à maintenir des prix qui soient aussi cohérents. Et là, j'ai dit que le travail qui est fait déjà est très bon.
Mm-hmm.
Il est même exceptionnel, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit baisser les bras. En félicitant les autorités, on devrait leur dire aussi de continuer davantage et puis de déloger ceux qui sont un véritable frein à cette politique intérieure menée par nos autorités.
Alors, vous l'annonciez, hein, bien sûr, à l'analyse de la stratégie de développement mise en place par les autorités, que l'objectif, par exemple, de l'émergence, si nous maintenons le cap, pourrait être atteint. Mais quels sont les éléments sur lesquels vous vous basez pour dire cela? Quand vous observez, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des éléments mis en place pour que, d'ici moins de 10 ans, on ne nous cite pas parmi les pays émergents? Parce que beaucoup, beaucoup de pays, pour ne pas dire que c'est devenu un slogan, l'annonce, mais concrètement, comment on y arrive?
L'élément fondamental, c'est la variation de la production nationale. Voilà. Et si vous avez une production nationale qui varie régulièrement, comme celle de la Côte d'Ivoire, d'au moins 5-6% chaque année,
mm-hmm.
je pense qu'il n'y a pas un frein à cette émergence-là. Et puis, nous avons un plan directeur et que nous suivons dans le cadre de la réalisation de cette émergence. Et la variation de la production nationale dont on parle tant dépend de certains paramètres
mm-hmm.
macroéconomiques, tels que les investissements. Et déjà, pour ce qui est des investissements, nous en faisons. Nous en faisons chaque année, c'est des investissements assez importants que nous réalisons en Côte d'Ivoire. Et la consommation, elle aussi, elle augmente, véritablement. Et on a un commerce, j'allais dire, international qui est très dynamique au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il faudrait certainement corriger, c'est peut-être le solde primaire, la balance des paiements, c'est-à-dire la première ligne, la balance des paiements. Les autorités font déjà des efforts assez importants, mais les points qui nous empêchent véritablement de maintenir un niveau très très élevé, il est déjà bon, mais un niveau encore plus élevé, c'est le fait que nous dépensons beaucoup d'argent au niveau des frettes et des assurances. Il y a le problème de l'armement, par exemple, et qu'il faudrait certainement, à mon sens, revoir. Et je pense que si nous arrivons à avoir un armement solide, cohérent, peut-être qu'il nous appartient, pourquoi pas. Ou alors, si nous entrons dans un cadre, d'armement, où il faut une certaine union entre des pays, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on paye moins et que cela réjaillisse positivement sur notre balance des paiements.
Mais est-ce que la transformation, par exemple, de nos productions ne pourrait pas être une des solutions aussi éventuellement de la création de richesses, surtout dans le commerce international? Nous avons le cacao qui continue à s'exporter. Bon, c'est vrai qu'il y a des efforts au niveau de la transformation locale et bien d'autres produits que nous avons. Est-ce que de plus en plus, cette orientation de transformer nos produits en produits semi-finis ou en produits finis pour l'exportation ne serait pas une clé aussi du développement des pays comme la Côte d'Ivoire et bien d'autres qui ont à peu près les mêmes modèles économiques?
Oui, et ça, je ne le dirai jamais assez. Et quand je parle d'une première ligne, d'une balance des paiements qui doit être très forte, mais c'est-à-dire qu'on ne doit pas négliger un seul pan en matière de gestion de l'économie nationale. La transformation de nos matières premières, mais on le fait déjà. Le gouvernement, ces derniers temps, a pris certaines dispositions en la matière. Il y a des usines qui sont en train d'être créées et je pense qu'il va dans la bonne direction. Il va dans la bonne gestion de l'économie nationale. Et lorsqu'on aura toutes ces dispositions, et lorsqu'on aura mis en pratique et tous ces objectifs-là, qui ne sont même plus des objectifs, mais qui sont en train de devenir des réalisations, et vous allez voir, cette première ligne-là va connaître un boom. Et c'est ma conviction personnelle. Et je vais même au-delà de cette conviction, parce que la conviction n'est pas seulement émotive, ça peut être moral. Mais là, je parle d'une réalisation. Et tout ce qui est réalisation concourt à une gestion optimale de notre production nationale. Voilà un peu. Donc, nous donnons ça, ce que vous avez dit, tel que la transformation. Mais il faut aller même un peu plus loin. Mais il faut créer comme les autres. Il faut développer la matière grise. Voilà.
Et là, l'éducation est un pilier central.
Mais exactement. Mais il faut mettre sur pied comme les autres des usines. Et pourquoi pas de fabrication des voitures, des machines, de tout ce qui entre dans la gestion des produits finis ou semi-finis. Voilà, c'est tout ça qui concourt au développement. Et pour notre pays, je pense que ce sont des choses qu'on a déjà démarré, qu'on a déjà commencé et qui sont en train de faire leur petit bonhomme de chemin. Et nul doute que dans les proches avenirs, la Côte d'Ivoire aussi sera citée dans les pays émergents.
Un élément important pour terminer là-dessus, c'est la question de la gestion justement de ce que le pays va engranger. La bonne gouvernance, un élément souhaité dans beaucoup de pays. Vous, en tant qu'économiste, cet élément-là est primordial pour notre développement, de votre avis?
Ben, c'est même pas moi qui le dis. Déjà en Côte d'Ivoire, je pense que le gouvernement a pris le taureau par les cornes. On a même un ministère de la bonne gouvernance.
Mais au-delà de l'annonce, en tant qu'économiste, en tant qu'analyste, c'est vrai, c'est volonté, mais est-ce que cela rentre vraiment dans les habitudes pour que la chose publique intéresse tout citoyen, surtout dans le sens du développement?
Oui, là, nous sommes en train de faire même une étude concernant l'impact de la bonne gouvernance sur la variation de la production nationale. Imaginez-vous un seul instant où on cite les variables qui font partie de la gestion optimale de la production nationale, tels que l'investissement, la consommation et le sort du commerce extérieur. Mais quelque part, il y a une autre variable qu'il faut y ajouter, qui est celle de la bonne gouvernance. Imaginez-vous un seul instant qu'on devait peut-être avoir un taux de croissance de 5-6% et que par souci de bonne gouvernance, c'est-à-dire la bonne gouvernance n'a pas pu gérer correctement cette bonne gouvernance et qu'on perd des taux par rapport à ce taux de croissance macroéconomique. C'est-à-dire on aurait pu avoir peut-être 7%, mais le fait que il n'y a pas eu un respect absolu de la bonne gouvernance, on se retrouve à 5 ou 4%. Voilà. C'est-à-dire, elle permet, lorsqu'elle est faite d'une manière efficiente, d'entraîner une variation positive de la croissance. Mais qui parle de variation positive de la croissance parle aussi d'un développement. La croissance, elle se fait en termes statistiques. Mais le développement, lui, il est visible. C'est-à-dire, quand on dit on a eu une croissance de 5%, ben, cela se résume en quoi? On a créé des ponts, on a créé des routes, on a créé des hôpitaux, on a créé des emplois. Voilà un peu le développement. Voilà. Donc, croissance et développement vont forcément dans la même direction.
En tout cas, croissance et développement vont dans la même direction, Monsieur Nozon. Nous avons fait le tour, justement, de ce sujet. En tout cas, situation économique mondiale et impact sur des pays de la zone UEMOA, moins notamment la Côte d'Ivoire. Vous avez noté, la Côte d'Ivoire résiste quand même aux chocs exogènes. Voilà, crise russo-ukrainienne, Covid et bien d'autres. Et c'est, par exemple, de tracer son chemin sur la voie du développement. Merci pour ces éclairages, Monsieur Nozon.
Je vous en prie.
Et portez-vous bien. À mes auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir, avec le même interlocuteur pour nous parler d'autres sujets. Ici, nous parlons économie et restez toujours fidèles. Merci à vous.